Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean Trapajot, Jean-Philippe Marceau et notre ami David Brodeur que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne ici aussi. Puis j'avais envie de l'inviter aujourd'hui pour parler avec nous de Samuel de Champlain. Vous savez tout le monde, ça fait plusieurs mois qu'on s'intéresse à l'histoire puis au symbolisme du Québec. Puis dans mes études là-dessus jusqu'à date, peut-être la figure que j'ai trouvée la plus impressionnante, puis peut-être qu'il y a le plus d'applications directes pour nous aujourd'hui, ça me semble être Samuel de Champlain, comme le fondateur de la ville de Québec. Puis, il y a eu plein d'épisodes très impressionnants dans sa vie, dont je pense que ça peut être intéressant de parler. Puis ça peut peut-être avoir un impact sur comment on va agir ici au Québec aussi. Fait que, pour commencer, on peut parler un peu juste peut-être du background de Samuel. On peut essayer de faire une histoire comme en survol, puis je suis sûr que dans la discussion, on va aller comme plonger à des aspects qu'on va juger symboliquement pertinents. Mais Samuel de Champlain, comme on peut le savoir dans le nom, là, c'est un Français né spécifiquement dans la ville de Brouage, une ville maritime. Puis là, il y a déjà quelques trucs qui peut-être vont être pertinents ici. Une région de la France où les guerres de religion avaient été assez intenses. Donc, après la réforme protestante qui a commencé en Allemagne, quand ça s'est rendu en France, il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis au protestantisme, puis ça a fait beaucoup de guerres dans le royaume, notamment dans la région où Champlain est né. Il y a même des historiens qui pensent que Samuel de Champlain était né protestant, parce que le prénom Samuel, souvent, c'était des protestants qui avaient ça. Mm-hmm. C'est plus commun chez les protestants. Puis, il se serait converti plus tard au catholicisme. Comme d'autres personnes, je pense plus tard, la femme qui va épouser aurait peut-être eu des circonstances similaires. Donc, pour Samuel de Champlain, on n'est pas sûr. En fait, les historiens ne sont pas complètement certains, mais ça semble plausible. Puis ça pourrait expliquer certaines choses, notamment le fait que... lui-même, il a probablement eu une conversion du protestantisme au catholicisme, puis autour de lui, il y avait beaucoup de conflits entre catholiques et protestants. Puis, en plus, dans une ville maritime comme Brouage, il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait en général. Ça semble avoir été peut-être une raison pourquoi Samuel de Champlain est devenu bon pour être un genre de médiateur entre les gens, puis réussir à négocier, puis être très, très habile socialement. C'est une des choses qui va ressortir constamment dans son histoire, d'ailleurs, là, comment il était vraiment exceptionnel pour ramener plein de personnes ensemble, puis utiliser plein de techniques pour faire ça. Puis, c'est je pense que c'est comme gros facteur qui a fait que lui a réussi à faire une colonie qui a fonctionné ultimement au Canada, alors que plein de tentatives avaient échoué avant lui. Il y a des gens en parallèle aussi. Là. Champlain, il n'y a pas... c'est assez incroyable comme histoire. Là. Il a fallu quand même essayer plusieurs fois de fonder des colonies au Québec avant que ça fonctionne. Même pour Champlain lui-même, il a été impliqué dans un paquet de choses avant que ça finisse par fonctionner. Ça passe beaucoup par le leadership de Champlain. Fait que déjà... vous pouvez réagir sur ce que je viens de dire, là, sur le fait qu'il était peut-être né protestant, puis ça semble peut-être une des raisons pourquoi il a réussi à faire collaborer plein de monde ensemble après ça pour fonder une colonie.
Vas-y, David. Si tu as des choses que tu penses.
Oui. Ben, dans le fond, c'était intéressant, puisque quand on lit ses mémoires, quoi que ce soit, c'est pas nécessairement quelque chose qui ressort tant que ça. Là. Puis, pour ceux qui ne savent pas, justement, pouvoir avoir accès à pas mal de sources primaires là, de cette époque-là, ce qui rend toutes les conversations qu'on va avoir encore plus intéressantes, parce que on va pouvoir citer Samuel de Champlain lui-même, on va pouvoir citer des gens qui ont travaillé avec lui, puis etc., etc. Chose qui est rare un peu quand on regarde à des éléments de fondation. On est habitué à regarder des trucs comme... En Europe, quoi que ce soit, la fondation des différentes nations, tout ça, que c'est du domaine mythique. Mais dans ce cas-ci, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des éléments, même dans sa vie à lui, qu'on peut faire des liens puis des types avec des personnages mythiques, puis je vais en faire tantôt. Mais en même temps, on le sait que, là, je mets des guillemets ici, historiquement, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. T'sais, comme tu dis tantôt, le fait qu'il ait été... issu d'une ville maritime, qui a un support maritime, qui a aussi tout, on va dire justement, cet esprit symbolique-là de l'eau qui est autour de lui. Puis ça va continuer, là. Je ne sais pas si tu allais en parler, mais justement, dans les trucs qu'il va faire quand il est jeune, c'est qu'il va faire justement de la navigation, la cartographie, du dessin, il va être très bon pour ça. Puis c'est ce qui va l'amener notamment à travailler avec ceux qui font les premières colonies en Acadie. Puis ainsi de suite. Là. Puis c'est là-dedans qu'il prend son entraînement, si on veut, à fonder des colonies, puis à savoir comment que ça fonctionne, puis etc. Puis tout ça vient à cause de son background dans cette ville maritime-là.
Un autre aspect sur son background dont ça vaut la peine de parler, une autre chose dont les historiens ne sont pas certains, là, parce qu'une des choses qui est mystérieuse de Champlain, c'est que il était assez proche du roi Henri IV, jusqu'à temps que Henri soit plus roi, puis que là, il y a eu des défis avec sa veuve. Mais c'est comme un puzzle un peu pour l'historien, là, comment ça se faisait que Samuel de Champlain a comme eu assez rapidement un bon accès au roi. Puis ça aussi, c'est des rumeurs, là, mais il y a des rumeurs que Samuel de Champlain serait peut-être un fils illégitime du roi, en fait. Ce roi-là était reconnu. En fait, c'est un roi que beaucoup de monde aimait, là. Il était comme beaucoup aimé du peuple. Puis il était généreux en jouer, etc. Mais il était passionné aussi. Puis apparemment, il a quand même eu beaucoup de maîtresses, beaucoup d'enfants légitimes. Ce serait une des raisons pourquoi Champlain aurait eu un accès comme ça au roi. Je sais pas à quel point ça peut jouer dans la fondation
Oui, mais c'est sûr que l'histoire des fondateurs qui sont les enfants illégitimes de différentes figures, c'est vraiment important, là, disons, au niveau mythologique. Il y a plusieurs histoires c'est souvent l'histoire de l'enfant illégitime ou l'enfant qui doit être caché, tu sais, pendant un certain temps, qui est amené, qui vit dans un village. Puis que finalement est ramené. Tu sais, c'est l'histoire de Œdipe, c'est l'histoire de Sargon d'Accade. Tu sais, il y a plein d'histoires dans les anciennes visions de. Tu sais, parce que souvent aussi, même au niveau mythologique, quand tu as un personnage qui apparaît comme ça, qui est vraiment très puissant, il faut aussi que tu trouves une façon d'expliquer pourquoi qui est ça, tu sais. Puis de tracer son. De dire, ah, ben, il doit être l'enfant secret d'un roi. Tu sais, c'est un peu l'intuition qu'on a aussi par rapport à Champlain, parce que tu dis, tu sais, son. On dirait que ce qu'il a fait, c'est tellement incroyable qu'on a tendance à vouloir le connecter au roi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, je dis pas que c'est comme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est important dans la vision, dans la vision mythologique, là. T'sais, par exemple, dans les légendes d'Alexandre le Grand, t'sais, pour expliquer comment c'est possible qu'un roi de Macédoine devienne l'empereur du monde, ben souvent, on va l'expliquer en partie en disant que. Sa mère, a pensé qu'elle avait une relation avec un dieu égyptien, mais que c'était en fait le dernier pharaon qui était caché en forme de prêtre. Fait que, tu sais, c'est comme, imagine, c'est comme un prêtre, un dieu, un roi, puis que ça, c'est en fait le père d'Alexandre le Grand.
Très bien. Un autre aspect du background de Champlain, je pense, qui est important, c'est que ben, David a commencé à le dire, là, il a passé beaucoup de temps quand il était jeune à apprendre à naviguer. Son père, au moins son père officiel, c'était un capitaine, c'était pas un noble, mais un genre de bourgeois, là, en France, on peut dire, qui avait assez de succès. Une famille en ascendance en général, c'est peut-être une des raisons pourquoi Champlain était aussi optimiste. En travaillant avec son père à naviguer, ben Champlain a appris à naviguer, à cartographier, etc. Puis ensuite, il a été soldat pendant plusieurs années. Il travaillait, je pense, justement plus au niveau de la navigation, cartographie, etc. Mais il a participé à des guerres parce qu'à l'époque, quand c'était le temps de la guerre, ben là, tout le monde y allait, là, même les gens qui travaillaient plus dans les bureaux. Puis ça va être important parce que quand il va être en Nouvelle-France, il va aussi aller à la guerre avec les Hurons, les Montagnais contre les Iroquois. Non, ça, c'est un autre aspect qui va ressortir plus tard. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire symboliquement là-dessus.
Non, mais c'est intéressant aussi de penser, t'sais, d'essayer de voir la façon dont Champlain est un conquérant. T'sais, il y a quelque chose de différent dans la façon dont il agit. C'est-à-dire, il a la caractéristique d'un conquérant, la caractéristique du guerrier, mais la façon dont il fait la guerre, c'est pas directement pour. On pourrait dire pour prendre le territoire, tu sais, comme on pourrait imaginer là, si c'était une guerre, mais il met sa capacité de guerrier au service de certains peuples qui sont là, tu sais, il s'allie avec eux, puis il fait une colonie avec eux. Mais c'est pas juste une sorte de guerre d'invasion directe, là, comme l'Empire romain ou d'autres colonies. Fait que ça, c'est quand même intéressant à penser que, tu sais, Champlain, il a plusieurs caractéristiques, il y a plusieurs aspects un peu qui sont mythologiques. Il est un, tu sais, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui a la capacité d'amener les gens vers un projet. Il a la capacité de faire la guerre. Il est un navigateur, mais la façon dont il fait, c'est assez particulier. Tu sais, c'est pas ce que tu penserais automatiquement quand tu entends l'histoire de quelqu'un comme ça.
Et sur ce sujet-là, après qu'il était soldat, il a commencé sa carrière plus d'explorateur. Puis ça a commencé en étant un espion. Il est allé travailler avec, je pense que c'était un oncle, quelque chose comme ça dans sa famille, qui était responsable de faire de l'exploration pour l'Espagne. Donc, ils sont allés en Nouvelle-Espagne. Puis Champlain était là officiellement pour faire de la cartographie. Mais ça, il était aussi un genre d'espion du roi pendant ce temps-là. Puis ça lui a permis de voir justement comment les Espagnols traitaient, eux, leurs colonies. Puis comment c'était épouvantable ce qui se passait avec les esclaves. Puis ça semble être une des choses qui restait, tu sais, dans la tête de Samuel de Champlain, là, comment c'était un échec, ce genre de traitement-là. Fait de voir justement l'échec moral qui s'était passé en Amérique du Sud. Puis que ce n'était pas une bonne stratégie pour fonder une colonie. Ça semble être une des choses qui a fait que Champlain n'a pas repris ces stratégies-là plus tard.
Ah, mais c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est des choses que je ne savais pas sur Champlain. C'est intéressant parce que il y a beaucoup de personnages héroïques ou des personnages mythologiques qui vont à un moment donné combattre pour l'ennemi ou qui vont être dans les terres des ennemis pendant un certain temps, puis qui vont aller chercher une sorte de sagesse de l'ennemi, on pourrait dire. On voit ça, l'histoire d'El Cid, par exemple, d'ailleurs, qui est intéressante, parce que c'est l'héros national espagnol, qui, à un moment donné, pendant son histoire, combat pour les musulmans. Et combat avec eux, puis finalement, il se tourne contre eux quand il revient en Espagne pour se combattre pour son peuple. Mais que les choses qu'il a appris, on dirait, de ses ennemis ou des autres vont aider à infuser sa capacité d'être un bon commandant. Là. Fait que ça, c'est intéressant que Champlain ait ça aussi. Là.
Ensuite, quand il va revenir de ce voyage-là, Champlain va ensuite vouloir aider à faire une colonie pour la France aussi. Fait que là, il faut qu'il rentre dans un peu la politique, là, dans une chose dans laquelle Champlain était très fort. Il avait accès quand même à beaucoup de choses aussi parce qu'il était ami du roi, il était proche de la cour, etc. Des périodes de sa vie, il va passer beaucoup de temps à la cour. Puis, il va aussi se marier à une fille, en fait, une jeune fille, même que, tu sais, je pense qu'elle avait juste 12 ans, Hélène, quand il l'a mariée. Fait qu'ils sont pas, tu sais, ils n'ont pas consommé le mariage, rien. Là, ils habitaient même pas ensemble, mais ils étaient officiellement mariés. Puis, à travers ça, puis des héritages que Champlain a reçus, il est devenu comme essentiellement autosuffisant. Il aurait pu juste, tu sais, passer sa vie en genre de retraite, puis à la cour avec le roi, s'il avait voulu. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était explorer, fonder des colonies, etc. Puis c'est très clair que dans ses motivations, c'était beaucoup d'aller évangéliser les Premières Nations. Il voulait aller voir des gens qui n'ont jamais été exposés à l'Évangile, puis les évangéliser. C'était ça son but premier. Puis ensuite, il se servait aussi de ça pour faire grandir la gloire de la France. Là, donc, puis aussi, c'est clair que comme cartographe aussi, là, il était officiellement le géographe du roi, puis il voulait, tu sais, faire des cartes, qui étaient très, très bons d'ailleurs. Souvent, les historiens vont remarquer que les genres de cartes qu'il faisait, ça dépassait d'habitude ce que les gens sont capables de faire avec ces instruments-là. Souvent, il y avait des. Il a développé des techniques aussi pour comment, comme naviguer autour des côtes d'une région pour être capable de bien évaluer le cartographier, etc. Donc, c'est vrai qu'il était un bon navigateur, etc. Mais il a réussi à organiser. Il n'était pas encore officiellement le responsable là, pour fonder une colonie, mais avec Aimard de Chaste, je ne sais plus c'est quoi son titre exactement, sont allés essayer de fonder quelque chose en Amérique du Nord. Puis là, le premier voyage de Champlain, si tu lis ses mémoires, ça porte beaucoup sur qu'est-ce qu'il observe chez les Autochtones. Chez les ben lui, il utilise le terme sauvage, là, puis tu sais, sauvage dans le sens où ben, ils sont proches de la Terre, ils ne sont encore pas dans un état civilisé. Puis c'est intéressant de voir comment Champlain est capable de venir rapidement, en bon terme avec tout le monde. Pour donner un peu de contexte, ceux qui n'ont pas déjà regardé ça un peu, mais tu sais, avant Champlain, ça n'allait pas très bien. Là. Puis même les gens autour de Champlain, comme Aimard de Chasse, puis tu sais, d'autres personnes qui étaient comme plus, disons, chargées de responsabilité officielle que Champlain. Champlain n'était pas noble. Là, ça a été long avant qu'il soit, disons, le responsable officiel en Nouvelle-France. Il arrive plein de mésaventures aux autres personnes. Donc, par exemple, Cartier, lui, Quand il est arrivé en Amérique du Nord, il est arrivé il est allé deux, trois fois, là, je ne me rappelle plus exactement des voyages de quartier, mais ça a fait rapidement des conflits. À un moment donné, c'était assez commun de, disons, apporter des gens chez toi après. Mettons, il arrive, tu arrives en Nouvelle-France, t'arrives en Amérique du Nord, il y a des gens dont tu connais pas la langue. Bien, une des choses qui était commune, c'était comme de prendre des enfants puis d'aller les élever en France. Ça, ils apprennent le français, mais ils parlent déjà aussi le Huron, l'Algonquin, etc. Puis là, quand ils reviennent ensuite en Amérique du Nord, bien, ils sont capables de faire, tu sais, le discours.
Négociation, la discussion.
Donc, Cartier avait fait ça, puis là, j'ai vu des sources différentes là, qui disaient que c'était-tu un kidnapping ou c'était vraiment comme c'était pas clair. À un moment donné aussi, il est reparti avec 10 personnes en France, que là, c'était voulu, là. C'était comme l'ancien chef ou, tu sais, des gens proches de lui qui avaient rapporté en France, mais là, finalement, ils sont tous morts de maladies.
Maladie, ben oui, c'est
Ouais.
ça.
Fait que là, après ça, il était comme un peu embêté de retourner en Amérique du Nord après,
Mes
là.
amis sont tous morts.
Finalement, il
Bon,
était.
c'est un accident, je vous jure, ils sont tous morts accidentellement. C'est important.
Il y avait des trucs pas faciles. Puis aussi, juste, tu sais, comment. Je sais que, par exemple, quand Cartier a érigé la croix à Gaspé, ça a été vu comme un genre. Les sauvages l'ont remarqué que c'était un genre d'acte de conquête. Il y avait quelque chose qui était pas correct dans la façon dont il l'a fait. Puis ça a fait une des raisons pourquoi il semble être parti après, comme kidnappant des personnes. Puis
Mais,
ça n'allait pas très bien.
tu sais, un des trucs aussi par rapport à ce que tu disais tantôt, c'est aussi que du point de vue des Autochtones, il y avait, tu sais, comme les gens qui venaient, mettons, en Amérique du Nord, ils pouvaient sembler faire tous partie du même groupe. Dans le sens où est-ce que, tu sais, éventuellement, mettons, il va y avoir des pirates, tu sais, qui vont profiter aussi du commerce de la fourrure, tout ça, mais aussi du commerce d'esclavage avec des gens d'Amérique du Nord. On a d'ailleurs même des contes québécois qui existent encore, que c'est ça comme le frame de base, là, où est-ce que c'est un pirate qui va capturer des Amérindiens, quoi que ce soit, puis il se passe des choses. Mais, tu sais, le point, c'est que pour eux, justement, tu sais, à un moment donné, il y avait comme pas vraiment de différence. Tu sais, il y a un bateau qui vient puis qui kidnappe des gens, pour ça, il y a un bateau qui vient puis qui demande des gens. T'sais, la différence, elle devait être quand même assez mince aussi pour eux autres, là. Je pense que ça a pas dû aider,
Ouais,
là.
ça, tu sais, nous, moi, quand je pense aux pirates musulmans qui attaquent l'Italie, je veux dire, pour moi, si tu me dis, ah, c'est pas vraiment, ils représentent pas l'islam, ils sont juste des pirates, j'ai de la misère à l'accepter, celle-là. Fait que je peux comprendre pourquoi les Autochtones aussi auraient de la misère à l'accepter.
Ouais, puis tu sais, pour ce qui est de la croix, tu sais, dans un certain sens, oui, c'était un acte de conquête, mais c'était un acte de conquête qui se voulait être cosmique, là, par rapport au Christ, tout ça. Tu sais, l'article que j'avais écrit sur le blog, c'était par rapport à ça. J'invite les gens à les lire si ça les intéresse, là. Mais aussi pour revenir sur un point que c'est une aparté, là, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que c'est le genre de choses qu'on mentionne pas assez en histoire, là, mais il y a des gens aussi qui font juste aimer ce qu'ils font, là. Tu sais, comme tu le mentionnais tantôt, là, Champlain, il aimait ça faire des cartes. Genre, il était bon, il était meilleur que les autres, puis il aimait ça faire ça. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on. Pas nous, là, mais juste en général, tu sais, qu'on veut comme abstraire, si on veut, les gens de leur vocation, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, le gars, il aimait ça, puis ça paraît, là. Je veux dire, comme tu mentionnais, les seules fois qu'il était à la cour, c'est parce qu'il était obligé d'y être pour aller chercher du support politique ou économique. Tout le reste du temps, il était parti. Si on regarde les conditions de vie de ces gens-là, c'était assez extrême, là. Même pour quelqu'un qui était bien nanti comme lui, c'était assez extrême, avec énormément de risques. Je pense qu'il n'y a pas personne qui aurait fait ça là, pour l'enrichissement ou quoi que ce soit, là.
Oui,
Bien
mais c'est
qu'il ait dû
intéressant
finir par
aussi.
s'enrichir quand même, là, mais.
C'est intéressant ce que tu disais, que Jean-Philippe disait que s'il aurait pu aussi juste vivre de son héritage. Fait que, tu sais, même au niveau mythologique, quand tu penses à un personnage mythologique, c'est comme s'il y a eu la tentation, tu sais. Il y a eu la tentation, en fait, d'avoir une vie un peu n'importe quoi, mais qu'il y avait une force interne qui le poussait à l'aventure malgré ça, là. Tu sais, ça fait un beau personnage dans ce cas-là aussi, là.
Pour retourner après ça à son passage en Nouvelle-France, avant que ça devienne la Nouvelle-France, on retourne à son passage en Amérique du Nord. il observe que une des choses qui va tout le temps être un problème, puis que Champlain va réussir à bien gérer, c'est les cycles de vengeance entre les Amérindiens.
Ouais.
Puis, t'es pas juste avec, mettons, entre les Amérindiens et les Français, mais entre différents groupes
Ouais, entre
d'Amérindiens
les
aussi.
tribus
Puis,
eux-mêmes.
souvent, c'était le genre de choses qui faisait que quand d'autres personnes essayaient de gérer la colonie, ça partait hors de contrôle, parce que c'était vraiment difficile à gérer. Champlain va le dire d'une façon qui est restée célèbre, je pense, là, que les Amérindiens vivaient sans foi, ni loi, ni roi. Donc, c'est sûr qu'ils ne connaissaient pas la foi, mais il n'y avait pas non plus, tu sais, de système de loi où, OK, tu fais telle chose, c'est ça la conséquence, puis les gens sont d'accord avec ça. C'était toujours des cycles de violence informels, là, où, disons, peut-être que quelqu'un, à un moment donné, une tribu vient t'attaquer, puis là, il tue une personne. Puis ensuite, tous les gens, maintenant, dans notre tribu, sont vraiment en colère contre l'autre tribu. Puis là, on va retourner les attaquer, puis on va peut-être tuer deux personnes. Puis là, ça faisait juste des cycles qui n'arrêtaient jamais. Puis des fois, tu sais, après ça peut arriver aussi entre les Amérindiens puis les Français qui arrivaient. Peut-être que, parce que les conditions étaient super difficiles, puis des fois, il y avait, je sais pas, un des colons qui faisait quelque chose de pas correct avec un Amérindien ou un Amérindien, ou vice-versa. Peut-être un Amérindien essayait de voler quelque chose au Français, peu importe. Puis là, les choses pouvaient partir vraiment facilement de contrôle. Puis souvent, Champlain était lui qui était capable de, comme, faire le médiateur en tout ça, trouver une solution avec laquelle tout le monde allait être content. Des fois, on ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est arrivé à un moment donné, avait un, ça va être plus tard, mais un Amérindien qui était en colère contre une autre tribu, puis il voulait vraiment aller à la guerre. Puis, comme, si, comme, on l'avait juste laissé faire, là, ou si on l'avait pas, comme, emprisonné, probablement ce qui serait passé, c'est que lui, il serait allé attaquer tout seul, comme l'autre tribu, peut-être qu'il aurait fait des dégâts, puis après ça, toute l'autre tribu serait venue, comme, attaquer la ville de Québec, mettons. Fait que, on sait même pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on est Champlain, il est parti avec, il a juste parlé tout seul, puis après ça, le gars, il a été correct tout le temps. Fait que, il
Ouais,
a...
c'est super intéressant ça parce que, tu sais, dans la perspective girardienne, admettons, tu sais, on peut tout de suite voir justement ces éléments-là là, de violence, tu sais, qui se relance puis qu'il n'y a pas de cycle final ou quoi que ce soit. Puis là, on va mettre un bémol sur ce que je veux dire, mais tu sais, mettons, dans la perspective de Girard, ce qui permet justement ce cycle-là d'arrêter, tu sais, c'est le sacrifice, puis de manière méta, tu sais, au niveau vraiment là, cosmique, c'est le Christ, t'sais. Puis c'est intéressant de voir que dans la colonie, justement, c'est Champlain qui a pris ce rôle-là. Là, attention, je ne suis pas en train de dire que Champlain, c'est le Christ, mais visiblement, il participait du type du Christ dans ses actions sociales au sein des différents groupes là, autochtones, puis de la colonie, puis tout ça.
Je trouve ça vraiment intéressant de voir, tu sais, comment Champlain parle des Autochtones, parce que il est capable d'être vraiment tranché sur le fait que, OK, c'est vraiment un problème, tu sais, qu'il n'y a pas la foi, qu'il n'y a pas de loi, qu'ils partent tout le temps en guerre les uns contre les autres, que même quand ils vont à la guerre, Champlain va être découragé parce qu'ils ne suivent pas les ordres. Puis, tu sais, souvent, comme Champlain, il sait très bien que si les Amérindiens l'avaient écouté, là, il aurait pu gagner leur guerre. Il est capable d'être très tranché sur, tu sais, OK, ça, c'est vraiment des erreurs qu'ils font. Mais contrairement à... En fait, après tous les autres colonisateurs, toutes les autres forces colonisatrices, il va quand même penser que, okay, ils ont quand même les mêmes armes que nous, puis c'est possible de les évangéliser pour vrai, puis on va travailler avec eux, on va pas juste les écraser. Puis Champlain va vraiment réussir à faire ça. D'ailleurs, même, je pense qu'on peut en parler tout de suite, là, parce que ça, c'est un peu une question, je sais pas, stratégique, là, sur comment on raconte l'histoire après, là, parce que c'est commun, surtout dans le monde anglophone, de remarquer maintenant c'est quoi les torts que la colonisation a posés envers les Autochtones en Amérique du Nord. Puis là, tu as un genre de conflit commun là, entre des anglophones qui vont dire, ben là, comme c'est pas grave, c'est le passé, puis d'autres qui vont vouloir toujours reconnaître qu'on appartient, qu'on a volé des terres, etc. Puis, dont je me suis rendu compte en lisant Champlain, c'est que ça, c'est un truc de Britannique, là. Comme c'est jamais arrivé, la colonie de Québec sous Champlain, puis après, comment ça a été géré, c'était une de coexistence pacifique avec les Autochtones. Fait que, tu sais, je me demande, d'un, j'avais jamais entendu ça. Quand, moi, la façon dont j'ai appris mon histoire au secondaire, là, ce que je me rappelle, c'est que, tu sais, nous, on était comme les Britanniques, pratiquement, là, comme les Américains, puis on était des envahisseurs, puis c'était pas correct qu'est-ce qu'on avait fait aux Autochtones. Puis après ça, les Britanniques avaient été méchants avec nous, mettons, c'est l'histoire que je me rappelle. Mais dans les faits, ce que je vois, c'est, amenez-nous pas dans vos affaires, là. Nous, les Canadiens français, avec le Duck ça allait en fait très bien. Ils étaient très contents de nous avoir ici, les Hurons, les Algonquins. Puis après, c'est vrai qu'on est allé à la guerre contre les Iroquois, mais les Iroquois étaient en guerre contre tout le monde. C'était comme eux qui étaient la puissance au sud, puis ils venaient attaquer tout le monde. Une des raisons, par exemple, là, c'est que tous les Autochtones voulaient vendre des fourrures aux Européens. Les Iroquois, eux, n'avaient pas de fourrure. Là. Ils restaient comme rien à attraper dans leur région. Fait, ce qu'ils venaient faire, c'était autant voler les fourrures des tribus plus au nord pour après ça les donner, les vendre, c'est-à-dire aux puissances européennes. Fait que, quand Champlain arrive ici, puis les Hurons, les Algonquins, etc., le voient, ils sont vraiment contents. On va être alliés avec une puissance française, puis on va être capable de peut-être se défendre contre les Iroquois, hein, faire du commerce, etc. Ils étaient très contents, les Autochtones ici.
Puis, c'est là que, tu sais, je pense que, tu sais, j'en avais déjà parlé avec Jean-Philippe, off the record, mais tu sais, la Fondation de Québec, dans cette perspective-là, moi, je pense que, d'un point de vue symbolique, elle participe d'un type historique. Parce que, quand on regarde au travers de l'histoire, c'est loin d'être la seule ville ou colonie, en tout cas, qui est fondée, puis là, j'utilise fondée, non pas bâtie de toutes pièces, mais qui est fondée avec certains principe que Québec aussi va être fondé. En premier, c'est un lieu stratégique. Deuxièmement, c'est un lieu maritime. Puis troisièmement, il y a une alliance qui est faite directement avec les gens locaux, les Autochtones. Puis c'est cette alliance-là qui, parce qu'elle est honorée des deux côtés, va permettre justement la prospérité. Tu sais, il y a plusieurs exemples que j'aurais pu sortir. Là. J'avais pensé parler un peu de Rome, surtout dans la description que Tite-Live y fait. Là. Tout ce qui entoure Rome, puis... la colonie, à cause que, tu sais, ça vient de Troie, puis etc., il y a tout l'aspect maritime qui est associé, tout ça. Mais il y a aussi un autre là, qui est un peu plus proche, là, je pense, là, c'est Massilia. Dans le fond, Massilia, c'est ce qui va devenir Marseille, en France. Puis à la base, c'est une colonie grecque, puis c'est exactement comme le même pattern. C'est-à-dire que c'est fondé par, dans le fond, un groupe de Grecs qui étaient marins, principalement, puis qui ont été jusque-là. Ils vont faire une alliance... Qui va durer longtemps là, avec les locaux. Puis le mythe, d'ailleurs, si vous allez voir là, les différents mythes qui sont chez les anciens, c'est axé là-dessus. Là. Ça passe là, par le fait que c'est un mariage entre comme la princesse des locaux puis le groupe là, des Grecs. Puis il y a ce rôle-là aussi de lieu stratégique. Là, dans le sens, l'emplacement de Marseille est vraiment bien fait, surtout pour les commerces maritimes, puis encore plus à cette époque-là. Fait que, tu sais, déjà, on voit ce pattern-là, il est repris à différents moments dans l'histoire. Tu sais, c'est un peu meilleur de dire que c'est un pattern qui marche. Là. Dans le sens, tu sais, un groupe de l'extérieur qui arrive, qui fait une alliance sur un point stratégique, puis qu'il y a une question de commerce. On peut voir à plusieurs endroits dans le monde que ça a fonctionné bien. Puis, tu sais, même si on va aller dans quelque chose de biblique, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi. Quand on regarde, là, mettons, là, au niveau biblique, Josué, quand il fait là, sa conquête, là, quand il arrive aux Gabaonites, il fait exactement ça. Puis c'est pour ça que tantôt, j'ai mis le bémol, que fondation ne veut pas dire création de toute pièce. Quand il arrive au Gabonais, c'est ce qu'il fait. Il arrive, il est déjà dans un mouvement de contact. Leur ville, leur cité est stratégiquement super bien placée. Puis on sait qu'il y avait du commerce. Puis il fait une alliance avec eux autres. Puis c'est cette alliance-là qui permet, de manière réciproque, t'sais, de perdurer dans le temps, puis de faire qu'ils sont intégrés à l'intérieur d'Israël, puis que les deux prospèrent. Même si, bon, dans le récit, les Gabonites, ils font une petite passe-passe à Josué, mais il n'en reste pas moins que l'alliance est honorée quand même, puis tout fonctionne.
Mais vous pouvez voir que dans l'histoire de la fondation de Rome, il y a quand même le rap des Sabines.
Oui, exact, c'est ça. Il y a plein de passe-passe.
Il y a des histoires,
mais ça perdure dans le temps. Exact. Fait que, tu sais, je pense que Québec joue un peu aussi dans ce type-là, puis dans ce pattern-là, tu sais. Tu sais, c'est pas de dire que c'est la fondation là, d'une ville éternelle ou quoi que ce soit. Je veux dire, même Québec elle-même, dans les années qui suivent, va tomber. Il va y avoir des conflits là, avec les Anglais, puis il va tomber, puis après ça, par la voie de la diplomatie, va être redonné à la France, puis là, ça va repartir. Là. Mais, tu sais, je pense quand même qu'il y a ce type-là qui est important. Puis un des éléments fondateurs, justement, de ça, c'est les relations avec les locaux qui revient dans chacun là, de ces villes-là. Là, tu sais.
Fait que, continuons l'histoire. Là, après le premier voyage, Champlain repart en France. Il va y avoir plusieurs allers-retours, là, au total. D'ailleurs, je pense, je vois pas de, t'sais, miracle dans l'histoire de Champlain en tant que tel, mais je vois pas mal la providence parce qu'il y a beaucoup de choses, on dirait que, t'sais, à travers le temps, ça n'aurait pas dû marcher, là. Une des choses, c'est qu'il a traversé 27 fois l'océan Atlantique, ce qui fait, t'sais, ça, plusieurs voyages.
Incroyable.
Puis il y a plusieurs fois où la colonie était menacée, puis il fallait qu'il fasse des manœuvres politiques en France, etc. On va le dire plus tard, mais une des choses, c'est justement il y avait beaucoup de voyages. Il est retourné en France, il est retourné au Canada. Puis on peut parler un peu des premières tentatives de colonies qui n'ont pas bien été, là. La première chose qui leur a vraiment entré dedans, c'est l'hiver, en fait. Le premier hiver à Québec, ça a été désastreux. Les gens ne savaient pas c'était quoi le scorbut. Cartier avait déjà eu la chance d'avoir un genre de remède qui avait été donné par des Amérindiens pendant son premier hiver pour les aider. Mais ça s'était comme perdu après. Puis, les Français n'étaient pas adaptés pour ça. Champlain a quand même remarqué que ça semblait être lié à la nutrition. Plus tard dans la colonie, à un moment donné, quand les gens vont bien manger, ça va être correct, là. Même si les gens ne savaient pas spécifiquement c'est de la vitamine C, ils savaient que si tu manges bien, t'allais être correct. Donc, une des choses que Champlain a fait, c'était d'utiliser quelque chose de rituel, utiliser l'ordre du bon temps, où là, il organisait, dans le fond, des bons soupers avec tout le monde. Puis à chaque jour, quelqu'un était responsable d'aller chasser quelque chose. Puis là, les gens voulaient s'impressionner les uns les autres, tu sais, puis aller faire la meilleure chasse. Puis ça semble être une des choses qui a aidé. Quand même, les premiers hivers ont été désastreux, là. Surtout, un des premiers hivers, il était installé à un endroit qu'ils ont reconnu plus tard comme étant mauvais, là. Il était sur l'île de la Sainte-Croix, qui était après, comme essentiellement. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais comme, géographiquement, là, ça veut dire qu'il était comme pris sur une petite île, puis là, il pouvait, t'sais, pas beaucoup chasser, pas aller chercher de poissons trop. Donc, il
Faut
était
dire
vraiment là.
aussi que de base, t'sais, tantôt j'ai dit que c'était un choix stratégique, là, Québec, là, mais de base, Québec, c'est peut-être pas la meilleure place pour les hivers non plus. Comparé à tout le reste du Québec, je pense que c'est une des pires places. Là, fait.
Ouais. Mais l'idée de l'ordre du bon temps, moi, j'apprécie beaucoup cet aspect-là de l'histoire de Champlain parce que il y a comme une compréhension aussi que t'sais, le scorbut, oui, c'est une question de nutrition, mais il y a aussi une question de vitalité qui est importante dans la. C'est comme si il a compris que c'était pas juste, oui, il fallait bien manger, mais qu'il y a quelque chose qui vient avant ça, c'est-à-dire une sorte d'énergie, puis une sorte de communauté, puis de vitalité. Puis il a réussi à joindre ces deux choses-là ensemble en créant. C'est comme si il y a quelque chose de contre-intuitif. Il a dit, ah, on n'a pas assez de nourriture, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des fêtes. On va faire des fêtes, puis là, on va en mettre, là, t'sais, on va essayer de faire ça le plus possible, puis t'sais, d'avoir des faire un peu quasiment des excès au niveau de l'attention qu'on met, disons, au temps qu'on est ensemble, puis à ce qu'on est capable de trouver comme nourriture. Puis je pense que ça, c'était vraiment un coup de génie, là, t'sais, de comprendre ça. Puis c'est aussi quelque chose de civilisationnel, t'sais, de réaliser que c'est pas juste une question de combien de nourriture ou de trucs matériels que t'as, mais qu'il faut, pour qu'une société fonctionne, il faut une vitalité aussi.
Je pense que c'est un point important que tu amènes, Jonathan, c'est que c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans tout ce que Champlain fait, justement, mais c'est qu'au-delà, mettons, de la bonne gestion, au-delà de la bonne cartographie, au-delà de la bon ci, bon ça, il y a toujours un axe civilisationnel derrière. Puis j'imagine, Jean-Philippe, tu vas en arriver tantôt, là, mais tu sais, même par rapport à ses relations avec les Autochtones et tout ça, la manière qu'ils percevaient qu'il y allait avoir des alliances, des mariages avec eux autres, etc. Tu sais, la famille, c'est le fondement d'une civilisation. Fait qu'à partir du moment que tu arrives avec des locaux, puis tu leur dis, ben là, c'est pas lui directement, là, c'est un jésuite qui était avec lui, là, qui avait dit, nos garçons vont marier vos filles pour permettre, tu sais, une descendance commune. Ben, t'es rendu dans un axe civilisationnel. Tu sais, c'est plus juste des alliances de courte durée ou quoi que ce soit. C'est ailleurs.
Donc, ça, il y avait. C'est intéressant ce que tu dis, Jonathan, sur la vitalité, parce que je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi Champlain lui-même a survécu à autant d'hivers terribles. T'sais, tantôt, je disais, c'est déjà très impressionnant statistiquement qu'il a traversé 27 fois l'Atlantique dans les conditions de l'époque, mais il a aussi jamais attrapé le scorbut. Lui, il était en bonne santé quand il était au Canada. Puis une autre chose, une autre mésaventure dans les premières tentatives qu'on peut mentionner, c'est qu'à un moment donné, Champlain a été responsable de fonder une première colonie à Québec. Puis il justifiait ça au roi vraiment de façon, okay, on va évangéliser les Autochtones, ça va faire aussi un grand territoire pour le roi, pour la France, etc. Faut pas laisser les autres puissances européennes prendre toute l'Amérique, etc. Et c'était clair qu'une des grosses motivations, c'était religieux, c'était justement de faire un peuple avec les Autochtones. Mais c'était pas facile. Puis il y a eu une mutinerie dans justement cette tentative-là où Champlain était le chef. Puis, ben, il a réussi à bien gérer la situation quand même, là. Il y a, comme, il y a quelqu'un...
Qui est dans la colonie ou sur le bateau? C'est où qu'il y a eu la mutinerie?
C'est dans la colonie en tant que telle. Ouais, je pense que c'était le premier hiver. Ma première hiver, comme, de la colonie de Québec. Parce que, je peux imaginer facilement, là, ça allait juste pas bien, là. Puis, il y a des gens qui sont rebellés contre Champlain. Et éventuellement, il y a quelqu'un qui a réussi, qui en a dit, glissé un mot à Champlain discrètement. Après ça, Champlain, il a été bon pour faire avouer les gens, là. Et ce qu'il leur a dit essentiellement, c'est que si vous parlez, ben, les conséquences vont être beaucoup moins pires. Il y a juste, le maître conspirateur qui a perdu la vie, là, que Champlain a condamné à mort. Les autres, ils ont juste retourné en France. C'était pas si pire que ça pour eux. Puis, une fois rendus en France, en fait, ils ont été pardonnés. Mais là, après ça, la colonie a été correcte. Puis Champlain fait plus attention à pas ce que ce genre de choses-là se reproduisent. Mais il a survécu à une mutinerie, justement.
C'est incroyable. Hein? Ça veut dire que ça a passé proche quand même.
Ouais, ouais. Puis ensuite, donc, après ça, plus tard, il va retourner en France. Puis là, il y a des problèmes parce que le roi Henri IV est mort. Là, maintenant, c'est sa veuve, Marie de Médicis, qui va prendre le contrôle jusqu'à temps que son fils soit assez vieux pour régner. Je ne me rappelle plus à quel âge, mais il est trop jeune pour régner encore. Puis elle, Catherine, excuse, Marie de Médicis, c'est une Italienne qui est beaucoup moins intéressée par la colonisation que son mari l'était. Puis là, Champlain va avoir moins d'appui. Puis en fait, je me suis mélangé tantôt là, dans mes notes. C'est pas plutôt que Champlain s'est marié, là, c'est quand c'est à ce stade-ci. Il est en France, il se marie. Ça vaut la peine de parler un peu aussi de la relation entre Champlain et sa femme, là, parce que c'est une autre des choses où malheureusement on n'a pas assez de détails, je pense. Les deux semblaient avoir été extrêmement pieux. Mais Champlain, c'est facile à voir parce qu'on peut le lire. Puis ça transpire dans ses écrits. Sa femme aussi, là, en fait, sa femme va finir par entrer au couvent. Elle ne voulait pas se marier. Là. Elle avait 12 ans quand elle s'est mariée avec Champlain. Évidemment, ils n'ont rien consommé avant 14 ans. Ça se peut même qu'ils n'aient juste jamais consommé le mariage, en fait, parce que les deux, ils n'ont pas eu d'enfants. Puis les deux, comme elle parlait, tu vois, qu'ils étaient très religieux. Puis sa femme, assez rapidement, elle a demandé à Champlain de carrément rentrer en religion, là, comme de puis vivre avec, puis de devenir une sœur.
Ah oui.
Finalement, elle va
elle
le faire.
Elle lui demandait de la laisser aller au couvent.
C'est ça. Assez rapidement. Champlain.
Il ne jamais être là, de toute façon.
Comment?
Il ne jamais être là.
Non, il était tout le temps parti. Là.
C'est ça.
Le plus de temps qu'ils ont passé ensemble, c'est à un moment donné, elle va venir 5 ans en Nouvelle-France. Puis en fait, là, ça. Sur papier, ça semble avoir été merveilleux. Il faisait une bonne équipe, disons. Là. Ça ne semble pas nécessairement être un mariage heureux pour Hélène, son épouse. Mais elle a fait un travail assez incroyable avec les Autochtones, notamment les filles autochtones. Là. Puis toutes les filles autochtones semblaient adorer Hélène. Elle leur enseignait des choses, elle leur parlait de façon affectueuse. Comme toutes les Autochtones sentaient que Hélène les aimait pour vrai. Puis elle a quand même passé 5 ans là. Puis, mais elle était quand même malheureuse ultimement en Nouvelle-France. Elle avait juste rentré dans un couvent en France. Mais ultimement, c'est quand Champlain va mourir qu'elle va rentrer tout de suite au couvent. Elle va devenir Hélène de Saint-Augustin. Mais ça, c'est pas exactement clair. Peut-être que Champlain se serait marié pour surtout avoir, disons, le statut, plus de statut de nobilité parce qu'il est marié à une famille noble. Puis ben, ça pouvait ensuite ouvrir des portes. Notamment parce que là, il n'y avait pas accès direct au roi. Peut-être aussi que tu sais, une raison pourquoi Marie de Médicis n'aimait pas vraiment Champlain, c'est parce qu'elle savait peut-être que c'était comme un fils illégitime du roi. Mais bon, ça pour dire, c'est une des choses dont de l'histoire de Champlain que je ne comprends pas très bien, sa relation avec son épouse. Parce qu'en dehors de ça, comme tout semble être assez héroïque puis très bien allé dans sa vie, mais ce bout-là, je le trouve quand même mystérieux.
Je sais pas si vous avez décidé, là.
Ben, il y a quand même des cas rapportés, là, je dis pas que c'est un saint, mais de différents saints, mettons, qui ont vécu t'sais, des mariages où est-ce que les deux étaient actifs ou quoi que ce soit à différents niveaux, là, que ce soit au niveau spirituel ou matériel, quoi que ce soit, mais que le mariage n'a jamais été consommé ou quoi que ce soit. Les exemples que j'ai en tête sont spécifiquement plus orthodoxes puis plus récents, là, mais ça ne m'étonnerait pas que ça ait existé aussi dans ces années-là ou même un peu avant. JP, peut-être que tu connais plus, hein, mais comme nous, on a Saint-Jean de Kronstadt, par exemple, là, que lui, il a été marié avec sa femme toute sa vie, mais ils n'ont jamais consommé le mariage, puis les deux vivaient comme frères et sœurs, etc. J'imagine qu'il y en a, comme je dis, du côté catholique aussi. Là. Peut-être qu'il y avait une certaine volonté à ce niveau-là.
Ouais, c'est sûr qu'il y en avait, mais je t'avoue, j'en connais pas tout de suite comme ça, d'histoire récente. Mais bon, on peut continuer l'histoire. Ensuite, en faisant de la politique habilement, Champlain va réussir à retourner en Nouvelle-France. Puis là, il va retourner avec, pour la première fois, des religieux, avec des récollets. C'était une branche des franciscains. Puis, quand tu lis Champlain en tant que tel, puis tu vois comment il parle de la première messe qui a été célébrée en Amérique du Nord. Ça paraît que c'était quelque chose de très profond pour tout le monde. Même tu lis ça aujourd'hui, honnêtement. Puis c'est assez touchant. Là. Ça paraît qu'il y avait quelque chose de... OK, on est en train d'apporter la foi, ce sur quoi repose toute l'Europe aussi. Puis on vient l'appliquer en Amérique du Nord puis fonder quelque chose de solide pour vrai. Puis avant, tu sais, tout le monde savait que c'était très difficile de fonder une colonie. Là. Ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des tentatives et ça ne fonctionnait pas. Mais pour la première fois, il y a des prêtres qui arrivent en Amérique du Nord pour fonder ça.
C'était où la première messe? C'était à Québec.
Je ne suis pas sûr, Renan, je regarde. Je ne serais pas surpris que ce soit plus en Acadie ou à Gaspé, peut-être. J'ai l'impression que c'était un peu plus loin. Mm-hmm. Mais je t'avoue, faudrait vérifier pour être sûr.
Là, à partir de là, est-ce que les prêtres sont restés au Québec? Ça a comme fondé une sorte de...
Je pense que ce qui va se passer, si je me rappelle bien, là, les récollets vont... Je pense qu'il va, après ça, tout le temps, avoir des prêtres, à part peut-être un moment où ils ont dû partir à cause des Britanniques, là, parce qu'à un moment donné, Québec va se faire conquérir par les frères Kirk, puis ils vont devoir repartir. Globalement, après ça, je pense que quand il y avait une colonie qui avait le droit d'opérer, il y avait tout le temps des prêtres. Il y a eu les récollets pendant longtemps. Après ça, il y a aussi des jésuites qui sont arrivés. Jésuites qui étaient très impressionnants, là, d'ailleurs. Là. C'était tous des gens qui auraient pu être, style, des profs ou directeurs de séminaires en Europe, mais qui voulaient vraiment aller faire quelque chose d'audacieux puis évangéliser l'Amérique du Nord. Puis, je ne sais pas si c'est tous, mais une grosse partie vont mourir martyrs, justement, par les Autochtones. Puis, à un moment donné, je pense que à cause du cardinal de Richelieu, les Jésuites vont finir par avoir comme la priorité. Là. Je pense que les récollets vont s'en aller à cause de Richelieu. Je t'avoue que je ne suis pas sûr c'est quoi toutes les politiques là, qui avaient mené à ça. Mais bon, après ça, je pense que ça va être comme définitif. Là. À part peut-être des problèmes légaux avec l'Angleterre là, quand il y avait des guerres. Je ne veux pas dire qu'il y avait souvent des guerres en Europe qui allaient après ça se répercuter en Amérique du Nord. Puis ça faisait que... Des fois, c'était drôle, il y avait des délais. Là. Alors, on est justement à Québec, va se faire conquérir par je ne veux pas mélanger entre les épisodes, mais Québec va se faire conquérir, je pense, c'est par les frères Kirk. Puis là, plus tard, Champlain va se rendre compte... Ouais, ça, c'est quand même drôle. Va se rendre compte que ça faisait en fait 3 mois que la paix avait été signée entre l'Angleterre et la France. Donc, la conquête était légitime. Donc là, Champlain était comme en bateau pour retourner en France à ce moment-là. Mais il s'en va plutôt en Angleterre. Puis, il va parler de ça à l'ambassadeur. Puis là, l'ambassadeur écrit au roi de France, blablabla. Puis là, Champlain ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas plus vite que ça. Puis à un moment donné, il apprend. C'est parce que le roi d'Angleterre va ultimement redonner la colonie, mais il attend un paiement parce qu'il a marié une Française, puis là, il a besoin comme d'une grosse dot. Il a demandé une grosse dot qu'il est censé recevoir de la couronne de France, puis il y en a juste la moitié comme que la France est capable de payer. Puis le temps que c'est pas fait, ben le reste des choses va pas débouler, fait que le Champlain est comme pris pendant un bout avant de pouvoir vraiment comme retourner prendre possession de sa colonie en Amérique du Nord.
Oui, ça, on ne sait pas juste aujourd'hui que la politique, c'est personnel. Hein?
Non. Puis, après ça, d'autres choses dont on peut parler, c'est quand, justement, il peut retourner... En fait, Le truc de la conquête, c'est plus tard, là. Mais avec les récollets après la messe, Champlain, chose qu'il va faire, ça va être de faire lire sa commission, là, comme quoi, OK, c'est ça, c'est mon autorité en France maintenant. C'est relié, t'sais, à la liturgie qu'on vient de célébrer. Puis ensuite, comme pour célébrer, là, il lance des coups de canon. Donc, tu as comme t'sais, une belle petite hiérarchie, là, où, OK, la première chose, c'est la messe que tout le monde vient de célébrer. Ensuite, il y a le pouvoir légal que Champlain a. Puis à la dernière, il y a comme les canons. Comme si c'était que tu as la structure de comment les choses sont organisées en Nouvelle-France.
Oui, c'est ça. Puis, ben dans le fond, je sais pas si David, tu as d'autres choses que tu veux dire par rapport à sa vie, mais moi, c'est sûr que j'aimerais s'entendre plus parler de sa mort aussi.
Ben, en fait, j'ai pas grand-chose, mais j'aimerais juste rajouter parce que j'étais faire la recherche pendant qu'on parlait. La messe que tu parles, c'était en 1615. C'était à sa rivière aux Prairies. Puis c'est comme assez fameux historiquement, là, parce qu'il y a quelqu'un qui avait produit aussi un tableau de ça. Puis après ça, le tableau a été repris par des artistes. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, les tableaux qu'on a, c'est pas le tableau original, là. Mais en tout cas, fait que c'est ça comme la grosse messe dans le coin de Montréal qui avait été célébrée. Puis il y avait les Autochtones qui étaient invités, etc.
Ouais. Ben oui, on peut s'en aller vers sa mort. Avant ça, je mentionnerais que quand Champlain est revenu comme son exil forcé à cause de l'affaire politique que j'avais mentionnée, puis la conquête anglaise, puis tout, quand il est revenu, tu peux voir dans la façon dont les Autochtones parlaient de Champlain, comment il était apprécié, là. La chose dont je me rappelle toujours, là, depuis que j'ai lu ça, ça a été noté par, je pense à ce moment-là, des Jésuites. Là. Quand il était retourné, OK, là, on va vraiment fonder une colonie, il était retourné avec des Jésuites, des colons, etc. Puis, quand on était en discussion avec des Autochtones, avec des chefs autochtones, pour relancer toute la machine, il y avait un des chefs qui avait dit, puis les Jésuites ont écrit ça, c'est pas comme ça aujourd'hui, là, avait écrit que quand Champlain était parti, la terre n'était plus la terre, la rivière n'était plus la rivière, puis le ciel n'était plus le ciel. Puis maintenant que Champlain est revenu, la terre est redevenue la terre, le fleuve est redevenu le fleuve, et le ciel est redevenu le ciel. Comme je l'avais mentionné, il était très habile pour forger des alliances avec les gens autour de lui, puis il était vraiment apprécié par les Autochtones autour de lui.
Ouais, puis tu sais, je pense que ce message-là du chef aussi, ça fit avec ce que Champlain lui-même il voulait faire. Tu sais, quand on lit ses écrits puis tout ça, ce qu'il a essayé de faire, tu sais, c'est vraiment, il voulait planter la foi chrétienne, puis aussi, puis là je cite ses mémoires là, jeter les fondements d'un édifice perpétuel. T'sais, fait qu'il y avait pas de doute dans son esprit que ce qu'il faisait justement, c'était une action qui était cosmique, là. Il n'allait pas juste fonder un commerce, ben, t'sais, un territoire commercial, quoi que ce soit. T'sais, il y avait un rôle directement qu'il se voyait jouer par rapport aux Autochtones. T'sais, on pourrait même aller jusqu'à dire que, pis là, je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, là, mais t'sais, Champlain avec Québec, visiblement, il voulait perpétuer la tâche que Dieu avait donnée avec Adam. D'organiser le monde, puis de propager la vie, puis etc. Il y a comme un type direct. Lui-même, en tout cas, il se voyait visiblement comme s'inscrivant dans ce type-là de l'humanité.
C'est intéressant que tu mentionnes Adam, là, parce qu'une des choses que Champlain va dire là, des Autochtones, c'est qu'ils ont la même âme que nous, mais ils sont, je vais essayer d'avoir la formulation, ils sont abandonnés depuis la fondation du monde. Ils pourraient devenir chrétiens, puis s'épanouir, etc. Mais là, ils sont piégés dans des cycles de violence mauvaise. Donc, c'est pour ça qu'ils voyaient que okay, c'est possible de faire les efforts, puis les aider pour vrai. Là, pas besoin de faire le genre de choses que les autres colonisations européennes avaient fait. Une autre chose dont ça vaut la peine de dire sur le sujet aussi, c'est la prohibition de vendre de l'alcool aux Amérindiens, quelque chose que des Britanniques allaient faire ou que de temps en temps aussi des pirates ou des, je sais pas le terme, là, des brigands européens allaient faire, y compris des Français des fois, là, qui voulaient vendre, t'sais, de la boisson aux Autochtones pour avoir des fourrures, des choses comme ça. Puis c'est quelque chose contre quoi les colonies françaises avec Champlain, puis plus tard, Monseigneur Lavelle, etc., vont toujours s'opposer. Donc, c'était une des bonnes choses encore que les Français ont fait côté colonisation en Amérique du Nord. Peut-être avant même de parler de la mort en tant que telle de Champlain, j'ai envie d'aller plus tard, là, parce qu'il y a quand même un choc après qui s'est passé parce que du vivant de Champlain, ça paraissait pas là, encore. Les Autochtones avaient l'air tous en santé, c'était pas grave. Mais quand il a commencé à avoir plus d'enfants canadiens, français en Amérique du Nord, là, il a commencé à avoir des grosses épidémies chez les Autochtones parce que ben, toutes les gens qui ont des enfants le savent, là, les enfants, ça tombe souvent malade, ça met tout dans sa bouche, etc., ça joue ensemble. Mais il y a beaucoup plus de maladies infectieuses chez les enfants que chez les adultes. Et quand il y avait assez d'enfants de descendance française en Amérique du Nord, ben, il a commencé à avoir beaucoup de décès chez les Autochtones. Champlain, c'est pas quelque chose qu'il a vu de son vivant, mais après, ça s'est quand même passé. Donc, il y a quand même ce choc-là, veut pas qu'il reste, là, où, ce que Champlain et les premiers colons faisaient avec les Autochtones, globalement, ça allait très bien, mais il veut pas, il y a eu une conséquence où il y en a plein qui sont morts d'épidémie.
C'est intéressant, parce que, tu sais, je sais que, en tout cas, plus au sud, ça, c'était vraiment un gros élément là, du transfert aussi, mais d'identité. C'est que beaucoup des gens dans le sud, les Autochtones sont morts. Là. Les histoires des colons américains qui allaient vers l'ouest, des fois, il y avait des histoires où ils disaient qu'ils arrivaient dans des villages totalement vides, là, où c'était comme tout était juste abandonné, vide, dilapidé. Mais je savais pas qu'au Canada, parce que quand même plus au nord, là, j'imagine que les gens étaient plus robustes quand même ici, qu'il y avait, eu autant aussi d'épidémies. Là.
Les maladies sont toujours moins pires aussi là, quand il fait plus froid. Là. C'est sûr que les bactéries, les virus, ça aime ça, les conditions tropicales, là, où il fait chaud, c'est humide, puis il y a plein de gens puis d'animaux. Fait que c'est ça, c'était moins pire en Amérique du Nord, mais il y en a quand même eu pas mal. Comme j'avais mentionné, c'est plus quand les enfants sont arrivés. Là. Je pense qu'en Amérique du Sud, c'était comme dès qu'il y avait du monde, les maladies
commençaient. Il y a aussi, tu peux vraiment imaginer les situations où c'est sûr que, tu sais, à cause que c'était des relations diplomatiques, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Il ne devait pas avoir énormément de contacts physiques. T'sais, peut-être de temps en temps des gars qui faisaient la fourrure, t'sais, qui apprenaient des maîtresses ou des copines autochtones. Mais quand il y a des bébés, t'sais, tout le monde prend les bébés. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup plus de mélange puis de contacts là, qui apporteraient la maladie ou surtout qu'il y a des bébés. J'imagine les femmes autochtones qui prennent les bébés métis ou les bébés blancs et tout. Puis, maintenant, là, les maladies commencent à circuler, j'avoue. Hein.
Une autre chose, en parlant de bébé, ça me fait penser à une autre chose de David Champlain, ça vaut la peine de mentionner, qui impressionnait beaucoup les Amérindiens, là, c'était la chasteté de Champlain, parce que ça dépendait des tribus autochtones, c'était pas tout comme ça, mais il y en avait quand même pas mal où il n'y avait pas, tu sais, il y avait pas de système de mariage comme nous. Puis une des choses que les jeunes faisaient fréquemment, c'est une fois que une femme commençait à être fertile en âge de se marier, ben, elle allait comme coucher avec plein de monde. Puis, les gens, souvent, ce qui se faisait, c'est que la nuit, ils sortaient de leur tente, puis là, les femmes puis les gars allaient coucher ensemble. Puis, à un moment donné, quand la femme tombait enceinte, là, les gars allaient comme se battre pour dire « OK, c'est moi le vrai père, c'est moi le vrai père. » Pour vrai, tu peux pas vraiment savoir. Mais après ça, ça allait être monogame, disons, à partir de ce moment-là. Puis, à un moment donné, Champlain, il n'était pas capable de dormir la nuit parce qu'il y avait plein de puces dans son lit. Puis, il se promène, puis il y a une femme amérindienne comme qui s'offre à lui, puis il refuse. Puis, ce genre de choses-là est arrivé de temps en temps. Là. On peut imaginer facilement, Champlain, c'est le chef des Français. Les Autochtones l'appelaient souvent le capitaine des Français. Là. Il n'y avait pas vraiment le concept de roi, puis tout ça. Fait que pour eux, c'était comme Champlain, le big boss. Là. Fait que, avec le statut qu'il y avait, tu peux imaginer, c'est sûr que ça arrivait souvent que des femmes voulaient s'offrir à lui, puis Champlain refusait toujours. Puis les Autochtones étaient vraiment impressionnés, en fait, que Champlain réussisse à faire.
Et ils trouvaient ça impressionnant.
Ouais.
Il n'y avait pas de mépris pour lui à cause de ça.
Non. Ben, je pense qu'il reconnaissait qu'il était tellement impressionnant de plein de façons que c'était pas par un genre de faiblesse là, qu'il refusait. Là. Une autre chose qui les a impressionnés beaucoup, c'est quand Champlain était allé à la guerre, là, comment il se comportait quand il allait en guerre. Et, une des fois, je peux mentionner, il est allé à la guerre contre les Iroquois encore, puis initialement, il était parti avec je pense, des centaines de Hurons puis une soixantaine de Français, puis plus il approchait, tu sais, du site de la bataille, plus les gens s'en allaient. T'sais, plein de Hurons s'en allaient, plein de Français s'en allaient. À la fin, je pense qu'il était 3 Français puis 60 Hurons peut-être pour attaquer des Iroquois. Puis Champlain, lui, comme on est soit on va le faire. Puis, tu sais, en fait, vous avez peut-être déjà vu, je vais peut-être prendre ça comme thumbnail. Le seul autoportrait qu'on a de Champlain, c'est une représentation d'une de ces batailles-là, où il est tout seul au milieu du champ de bataille avec son arquebuse, qui est un genre de fusil qui peut lancer plusieurs balles en même temps. C'est dangereux d'ailleurs. À un moment donné, ça a explosé d'en face parce qu'il y en a mis trop. Dans cette image célèbre-là, c'est un auto-champlain un autoportrait de Champlain. Il est en plein milieu d'une bande d'Iroquois puis de Hurons. Puis il y a des flèches, tu sais, qui passent autour de lui. Puis lui, Champlain, il est au milieu avec son arquebuse. Évidemment, c'est les Iroquois, quand ils voient une arme à feu pour la première fois ou même après, sont toujours vraiment choqués. Il y avait souvent, par exemple, des armures de bois qui allaient bloquer les flèches, mais les balles de Champlain, ils passaient à travers. Puis là, à un moment donné, Champlain il a tué comme deux chefs autochtones d'un coup, puis là, tout le monde était vraiment sûr. Donc, Champlain était aussi vraiment brave puis effectif à la guerre. Puis il avait pas peur comme les gens autour de lui. Au moins, s'il avait peur, il le cachait. Fait que, tu sais, les Autochtones voyaient qu'est-ce que Champlain faisait à la guerre, voyaient comment il était capable d'organiser une nation aussi. Puis après ça, quand il refusait des femmes qui s'offraient à lui, ben, il était d'autant plus surpris puis impressionné.
Ah, c'est intéressant.
Fait que, là, on peut, ben, rendu là, je pense qu'on peut parler de la mort de Champlain. C'est vraiment une belle fin de l'histoire. Comme j'avais dit plus tôt, il a traversé 27 fois l'Atlantique. C'était très compliqué. Là. La colonie, tu sais, il a traversé des étapes de scorbut, des conflits avec l'Angleterre, perdre gagner de la colonie, des mutineries. Ça a été vraiment difficile. Mais à la fin de sa vie, la colonie grandissait de façon exponentielle. La ville de Québec était quand même bien partie. Puis, Champlain, il y a encore la Providence. Là, il est mort à Noël, quelques semaines après avoir fait un ACV, puis il a eu le temps de bien préparer sa fin de vie, là, de faire une confession générale dont les Jésuites ont écrit, pas écrit sa confession, mais ils ont écrit sur les circonstances, puis comment Champlain se comportait de façon pieuse, puis authentique à la fin de sa vie. Puis il est mort, ben, effectivement, à Noël en 35, si je me rappelle bien. Donc, pas nécessairement un miracle, mais encore la providence, là, de mourir la naissance de Jésus.
Ouais. Puis la dernière lettre qu'il a écrite, ou en tout cas le dernier écrit que c'est lui qui a fait, puis qu'on a des preuves, quoi que ce soit, c'est une lettre qu'il a envoyée au cardinal Richelieu en août 1635, fait que juste un peu avant son ACV. Puis, tu sais, je le mentionne aussi parce que ça vaut la peine par rapport à tout ce qu'on a dit, mais c'est une lettre où est-ce qu'il dit, dans le fond, au cardinal Richelieu, si on avait plus de soldats, on pourrait se débarrasser des Anglais, etc., etc. Mais il finit sa lettre en disant « le tout pour la gloire de Dieu ». C'est ça, c'est ça sa signature quand il envoyait des lettres officielles là, en Europe ou quoi que ce soit. Là,
un autre genre de document que j'avais trouvé intéressant, c'est si tu lis, il y a des coffrets, là, des œuvres complètes de Champlain, où ça passe à travers tous ses voyages. Puis une des choses qu'il y a vers la fin, c'est un guide pour les explorateurs. Genre, tu sais, comment naviguer, comment s'occuper d'un bateau. Puis tu sais, la première place qu'il donne, là, c'est complètement spirituel. Idéalement, tu vas avoir un prêtre sur ton bateau. Tu veux que les gens aient une genre de liturgie, une prière, etc. sur le bateau. Puis après le genre de choses plus concrètes va découler. Mais ça, c'est vraiment un pattern qui est tout le temps là dans les œuvres de Champlain. Là, il commence toujours par quelque chose qui a rapport à la religion, puis ensuite il va aller vers le concret, y compris dans les motivations qu'il va donner pour fonder les colonies.
Oui, ça, mais c'est vraiment important de réaliser que la vraie fondation d'un pays, elle ne peut pas éviter l'aspect religieux, puis que si on essaie d'éviter l'aspect religieux, bien, ce qu'on se retrouve, c'est des pays qui sont arbitraires. Puis on le voit, ce qui est arrivé dans la division de la carte là, moderne, surtout la post-colonie, les espèces de division arbitraire des pays qui s'est fait en Afrique ou à certains endroits en Asie, bien, on voit que ce que ça fait, c'est que ça crée une confusion constante. T'sais, il y a juste une confusion constante et des problèmes constants. Mais l'importance de... une des choses qui stabilise les Américains, même si moi, je ne suis pas puritain, mais le fait que l'État américain, les premiers mouvements ici, c'était carrément motivé pour des raisons religieuses. Puis l'idée de comprendre que ça aussi, ça faisait partie de la fondation de la ville de Québec, puis de Québec en général, bien, c'est ça, c'est comme un garant d'une certaine stabilité aussi, là.
C'est un aspect que je veux continuer à creuser, puis je suis pas encore clair comment exactement utiliser l'histoire de Champlain pour ça, mais surtout après la conversation qu'on a eue il y a quelques semaines avec Francis Denis, je vois quand même que le problème théologico-politique est vraiment important au Québec. Je pense en Occident en général, là, on ne sait pas exactement comment
Il est plus important au Québec, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi chez le Canada, il n'y a pas d'identité, mais que le Québec, il y en a une. Ouais. Le Canada, c'est rien. C'est quoi le Canada? C'est-à-dire, on n'est juste pas les États-Unis. C'est ça, le Canada. On n'a pas vraiment de cohésion, on n'a pas d'identité. On est un peu comme le résidu d'une colonie anglaise qui n'a jamais eu de fondation propre, qui est juste un acte constitutionnel, qui est un papier. Il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas rien qui fait de nous vraiment l'idée d'une nation. Tandis que les Québécois, à l'intérieur du Canada, ont plus un sens de leur nation pour des raisons qui sont plus proches du sacré. Là.
Puis il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que Champlain était un laïc qui a réussi à bien fonder un État. Il y a quelque chose de différent. Mettons, beaucoup de les premiers colons américains, c'était des laïcs, mais il n'y a juste pas de prêtres. C'était juste des protestants à la base. Mais il y a quelque chose de spécial dans le fait que, OK, Champlain vient fonder une colonie catholique, puis c'est un laïc qui le fait, puis ça va être quoi son rapport avec le clergé, justement. Puis ça semble, de ce que je peux voir au niveau, mais je vais continuer d'y penser, là, ça semble être qu'il n'essayait pas de remplacer le clergé. Là. La façon dont il parle du clergé, c'est tout le temps avec plein de respect, puis c'est clair qu'il ne comprenait même pas exactement toutes les subtilités de ce monde-là. À un moment donné, il se trompe dans, je ne sais plus c'est quoi exactement les détails, mais il se trompe dans la façon dont il parle d'un des frères comme si c'était un prêtre. Mais il y a des choses, disons, du monde du clergé qui ne semblait pas exactement comprendre, mais c'est clair qu'il était extrêmement pieux et qu'il se remettait pour les choses spirituelles au clergé, puis c'était vraiment important qu'il soit là. Puis de l'autre côté, les clergés qui étaient là au Québec n'essayaient pas de prendre la place de Champlain pour gérer les affaires concrètes de la colonie. Ils savaient que c'était Champlain qui allait le faire et ça allait bien aller. Puis il semble avoir eu cette relation-là saine entre le pouvoir temporel et spirituel. C'est chez Champlain qui a fait que ça a bien fonctionné. Il y a eu d'autres tentatives qui n'ont pas bien fonctionné là, aussi. Là. Il y avait une des tentatives, ça a été à un moment donné d'apporter, c'est quand même drôle, là, d'apporter pendant une des premières tentatives de colonie un prêtre catholique et un pasteur protestant. Puis, évidemment, ça faisait de la division dans le peuple. Puis, même de la division entre le pasteur et le prêtre, là, ils se sont battus, même, apparemment. Mais, je pense en bateau, même, avant même d'arriver à la colonie. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui n'ont vraiment pas bien fonctionné. Tu avais quand même un genre de tolérance des protestants par Champlain, une fois qu'il y avait une fois que la colonie française était établie, puis même si des fois il y avait des ordres officiels de France de ne pas tolérer les protestants, il avait quand même laissé rentrer, je sais pas, des Écossais, puis il les laissait marier avec. Fait qu'il y avait quand même une finesse pratique là, pour réussir à intégrer les gens. Mais en général, comment Champlain a réussi à avoir un bon rapport entre l'État et l'Église, je trouve ça impressionnant. Puis, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui peut être des bons exemples pour nous aujourd'hui aussi, parce qu'on n'a pas réglé ce problème-là au Québec encore.
Non, c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant.
J'aurais un fun fact de la journée à passer, parce que c'est en lien là, avec ce qu'on discute. Mais tu sais, Champlain, une fois qu'il décède, les efforts de colonie ne vont pas cesser. Là. Au contraire, il y en a même qui vont se multiplier à différents endroits, là, en Nouvelle-France, tout ça. Puis tu sais, un des personnages importants là, de la colonie, c'est Pierre Boucher, celui qui va fonder notamment Boucherville. Là. C'est un seigneur, puis tout ça, puis il va faire un paquet de choses. Mais lui, dans le fond, il va avoir des gens dans sa famille, notamment une femme qui s'appelle Marie Boucher. Puis Marie Boucher, dans le fond, elle, sa petite-fille, c'est Marie-Ève Duville, qui est sainte là, pour nos amis catholiques. Mais elle aussi, elle va avoir un frère qui s'appelle Lambert Boucher, qui est l'ancêtre du pape Léon qu'on a en ce moment. Fait que... c'est fait que, tu sais, dans le fond, comme les trucs qu'on parle là, juste après Champlain, etc., etc., ben, c'est comme lui, il doit s'y intéresser parce que c'est directement là, dans ses ancêtres, là, puis tout ça.
C'est fascinant. Aussi, tu sais, il y a Marco Rubio, il y a juste quelques jours, qui avait essayé de faire un genre d'histoire universelle catholique pour les États-Unis, là, où, en général, c'est un mouvement vers le catholicisme chez les intellectuels aux États-Unis. Ouais. C'est beaucoup de chrétiens qui se déplacent là pour avoir un genre d'assise intellectuelle. Puis, c'est pas si facile à faire pour les États-Unis, là, parce qu'ils n'ont pas été fondés par des catholiques. Puis c'est même très hostile aux catholiques pendant très longtemps. Puis c'est assez récent que le catholicisme n'est pas une religion, disons, de paysans aux États-Unis. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, Marco Rubio, tu l'entendais dans son speech, puis tu sais, il parlait pas spécifiquement du Québec ou du Canada, mais il mentionnait, je sais pas, les premiers en Amérique du Nord, puis la foi, les premiers martyrs en Amérique du Nord, puis c'est tout des trucs qui sont passés au Québec.
Ouais, il disait pas Québec, il disait pas le Canada français, il disait pas Québec, mais c'était sa seule façon d'en parler, c'était de parler de nous, dans le fond. Ouais. C'est intéressant, ça.
Parfait.
C'est pour ça qu'il veut nous annexer.
Ben, parfait. Je vais continuer à penser à Champlain, puis c'est comment bien raconter l'histoire de façon concise, là, puis plus mythologique. C'est intéressant, c'est quelquefois, j'entends que tu es intervenu en mentionnant, OK, ça, c'est comme dans telle histoire. Hein. Okay, ça, je pense que c'est vraiment une bonne personne à qui parler. Une bonne personne de qui parler pour comprendre notre histoire de la période du Québec de façon très positive. Il va y avoir d'autres personnes dont je vais vouloir parler plus tard, là, notamment pour les fondations de la ville de Montréal, que là c'était différent. Là, ça a été fondé vraiment pour des objectifs sont encore plus religieux, puis là, souvent par des religieux. Dans une place encore beaucoup plus hostile, vraiment en territoire iroquois, comme c'est aussi un miracle que Montréal soit encore debout. Mais bon, pour le premier épisode, on a parlé de Champlain et puis de la ville de Québec. Avant que vous ayez d'autres choses à dire, les gars, je pense que c'est un bon endroit pour finir aujourd'hui. Parfait. Ben, merci beaucoup tout le monde, puis on se reverra dans quelques semaines pour le prochain.